RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
La suite des grandes gueules sur RMC, la radio, RMC Story, la télé avec Maître Sandrine Pégan, avec un deuxième avocat, Maître Charles Consigny, et un médecin, le docteur Marty. Et on joue puisque nous sommes le vendredi 13. Il y a de l'argent à gagner aujourd'hui sur RMC, RMC Story, jusqu'à 30 000 euros. Pour cela, il faut vous inscrire dès maintenant. Vous avez 10 minutes pour envoyer 13, le mot 13 ou le chiffre 13, au 7-32-16. Au 7-32-16, 10 minutes pour jouer et pour ensuite participer à la roue RMC. Vous allez tourner la roue si vous êtes sélectionné à 11h20, donc dans un quart d'heure maintenant. Et vous gagnerez quoi qu'il arrive 1000 euros. Ce chiffre de 1000 euros pourra être multiplié par 2, par 3, par 5, par 13. Et ça pourrait même aller jusqu'à 30 000 euros avec la case mystère. Donc ça vaut le coup de jouer aujourd'hui sur RMC. Jour de chance ce vendredi 13. On accueille notre invité.
RMC, face aux grandes gueules.
Alexis Corbière, le député de Seine-Saint-Denis, bonsoir. Enfin, bonsoir, non, bonjour. À 11h04, on peut dire encore
alors,
bonjour.
Je tiens à dire que vous m'avez appelé Olivier Corbière oui. Sur le visuel. Maintenant, c'est bonsoir.
Ça va
comment
mieux.
Allez-vous, cher Olivier?
On n'est que vendredi. Oui. Alexis Corbière, faut-il une commission d'enquête parlementaire sur le volet français de l'affaire Epstein?
Alors, que les députés travaillent sur des sujets, et s'il y a des députés qui ont manifesté le fait qu'ils souhaitent le faire, pourquoi pas? Il faut que ce soit que plusieurs groupes puissent signer ça. C'est la demande notamment de certains insoumis. Moi, je m'y oppose pas. Mais pour dire les choses sur le fond de ma pensée, on est quand même dans un dossier où il faut que ce soit la justice et la police qui travaillent. On est dans un dossier où il y a 3 millions de documents à récupérer. Mmh. Moi, actuellement, je suis rapporteur d'une commission d'enquête sur le Louvre, la sécurité. Je vois le boulot que ça représente. Je veux pas qu'on croie qu'un parlementaire, avec les moyens de l'Assemblée, les administrateurs, ont les moyens de débunker ce qu'il y a dans ces 3 millions de documents qui sont en anglais, dans lesquels il y a des faux, etc. Donc, comment dirais-je? Surtout que même mes amis qui proposent cette commission d'enquête, comme il y a eu des remarques comme quoi la justice travaillait dessus, a dit on pourra pas aborder le dossier judiciaire. Bon, donc je sais pas très bien ce que ça ferait. Alors une fois que j'ai dit ça, que les choses soient claires, je suis pour toute la lumière doit être faite là-dessus. C'est quelque chose, c'est une affaire absolument dégoûtante qui nous dit quelque chose du temps dans lequel on est, c'est-à-dire que l'argent permet d'acheter les consciences, les corps chez certaines personnes qui ont des relations désormais d'un réseau international parce qu'il y a un entre-soi social où on se fréquente, on s'aide financièrement, sans même parler d'histoire de sexe. Mais d'abord, on observe que, notamment, ce monsieur Epstein a la capacité, je vais venir sur Jack Lang, d'aider financièrement, etc. Donc, on voit bien et ça dans plusieurs pays. Et ces gens ont des pratiques vis-à-vis de l'intime absolument détestables parce que ça leur semble normal d'acheter des jeunes filles de 14, 15, 16 ans pour qu'elles viennent dans des soirées afin d'abuser d'elles. Bon, donc tout ça, c'est, comment dirais-je, quelque chose qui est révélateur, je crois, de gens très fortunés qui pensent que toutes les règles ne les concernent pas.
Jack Lang a eu raison de quitter, enfin, on l'a un peu poussé dehors, la présidence de l'Institut du Monde Arabe.
Oui. Déjà.
C'était plus tenable?
Déjà, en dehors de l'affaire, à 86 ans, on n'a pas à être, selon moi, directeur d'un tel institut. Je veux dire qu'on apporte son réseau parce que de connaissances à 80 ans, c'est une chose. À 86 ans.
Faut pas s'accrocher.
On doit s'arrêter, déjà. Je veux pas manquer de respect à ce qu'il a pu faire comme ministre.
Que à 86 ans, si vous êtes encore député, on va vous le reprocher.
Je pense que vous avez bien raison de me le reprocher. Ne m'embarquez pas sur les histoires de l'âge parce que je vois bien dans quoi vous allez dire.
Sortir l'archive.
Non, mais je veux dire.
Mon successeur.
On va se parler clairement. Ce dont on parlait n'était pas une fonction honorifique. C'est quelque chose de rémunéré. Je pense que à 86 ans, ou même en vérité, quand on approche les 80 ans, etc., il faut savoir arrêter. Mais au-delà de ça, ce que révèle, alors, il y a un combo dans cette affaire, vous en avez parlé, c'est-à-dire qu'il y a l'argent, il y a l'entre-soi, cette espèce d'élite mondialisée, offshore, etc., et puis il y a le sexe. Moi, je voudrais pas, à ce stade, concernant Jack Lang, il n'y a pas de lien sur des histoires crapoteuses. Il y a des histoires d'argent qui est détestable et qui est absolument insupportable de gens qui manifestement
avec une filière
qui est scandaleux et qui mérite qu'on l'a de voir au plus près d'un point de vue de la justice parce que moi ça me choque qu'un ancien ministre socialiste ne voit pas le problème alors en plus je parle c'est à travers sa fille, mais enfin que avec un milliardaire, un millionnaire, il est que millionnaire américain, on va monter une société dans un paradis fiscal pour acheter des œuvres d'art. Enfin, faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Là, il y a quelque chose qui est scandaleux et qui doit être rudement sanctionné. Moi, je pense que
c'est aussi l'histoire de ce diplomate quand même. C'est étonnant ce diplomate qui consulte des sites pédopornographiques aux États-Unis. Le FBI le signale, on le renvoie en France en pensant qu'en France on va s'en occuper. Alors peut-être par un suivi psychologique, c'est ce que souhaitait son supérieur, mais aussi peut-être un suivi judiciaire. Il se passe rien et il continue sa carrière. Emmanuel Macron d'ailleurs a fait part également de sa surprise. Il était choqué par ça. Est-ce que là aussi on n'est pas dans on se protège finalement dans certains milieu, pas vu, pas pris.
Bah, si c'est le cas, faudra le sanctionner. Ce que je veux dire, c'est
là,
que
là, ça vaut une enquête aussi.
Oui, non,
là,
mais
c'est
attendez.
Vu et pas pris.
Non, mais ouais. Attendez. Oui, c'est vu, pas pris. Olivier, vous m'avez marqué sur deux sujets. Qu'il faille une enquête, c'est-à-dire des policiers, des magistrats qui travaillent, y compris
une enquête judiciaire, vous voulez dire.
J'ai même vu l'autre soir, il y a même là-dedans des images générées par intelligence artificielle. Donc le document ne fait pas preuve. Il faut avoir les moyens de vérifier que ce dont on parle est quelque chose qui est véritablement un document réel. Deuxièmement, on a compris qu'il y a une stratégie, à mon avis, là je vais faire mon petit côté pas complotiste, mais qui vient y compris de la manière dont Trump et les États-Unis balancent 3 millions de documents
pour noyer le poisson,
avec en plus de ce que j'ai compris, des documents les plus graves qui ne sont pas mis à disposition.
Il y a des noms qui ont été
vous êtes noyé sous la masse de choses. D'accord? C'est une stratégie. Donc, si ma question
est. C'est ce que disait Steve Bannon.
Je crois qu'un petit parlementaire là-dedans, une petite commission parlementaire qui a des moyens, mais à mon avis, n'est pas la plus adaptée.
Non. Hein,
pour que la clarté soit faite. C'est à la police,
justice.
La justice, y compris que les polices du monde entier à travers, Interpol se mettent en connexion pour aller jusqu'au bout. Et pour aller jusqu'au bout, effectivement, pour vérifier quelle est la nature du réseau, est-ce qu'il y a des influences sur la politique nationale en France, ça peut être intéressant. Et là, vous me citez ce cas. Pour quelle raison ce diplomate est passé à travers les mailles du filet? Il va de soi que ça, c'est intéressant. Après, je crois que là-dessus, si on veut travailler sérieusement sur le dossier, confions-le à ceux qui nous permettent vraiment d'aller jusqu'au bout et pas en faire quelque chose de politicien. Vous avez compris sur quoi je veux en venir. Moi, vous m'avez pas relevé, mais on voit bien comment dans cette affaire, on coche plusieurs cases qui peuvent enflammer la société. Hein. C'est pour ceux qui connaissent, c'est M le maudit, c'est Barbe bleue, c'est le grand mythe hein, de personnages diaboliques qui sont là et qui peut nous amener sur quelque chose
de
dangereux.
Vous l'avez dit, vous faites partie de la commission sur la protection du patrimoine national et la sécurisation des musées. On pense bien sûr au Louvre. D'autant plus qu'on vient d'apprendre qu'il y a une fraude à la billetterie. Louvre, il y a un réseau qui vient d'être démantelé.
J'ai découvert ça.
Une opération policière a été menée au musée du Louvre. On a interpellé 9 personnes, dont 2 employés de l'institution, 2 guides touristiques. C'est une vaste affaire. On parle de plusieurs centaines de milliers d'euros détournés. Comme disait Jacques Chirac, les emmerdes, ça vole en escadrille. C'est vrai qu'il y a eu le braquage. Maintenant, il y a cette fraude. Enfin, c'est pas tenu quand même. Le musée du Louvre, je rappelle que c'est le plus grand musée du monde. Hein.
Le plus grand. 9 millions de visiteurs jour. Visiteurs par an, 30 000 par jour.
Mais c'est pas tenu, j'ai envie de dire.
Alors, on est en train de bosser là-dessus. On va faire un point d'étape dans la semaine avec le président de la commission, Alexandre Portier. Moi, je suis le rapporteur. Et on va auditionner prochainement la directrice, Madame Descartes, l'ancien directeur, Monsieur Martinez. Et on souhaite que même Madame Dati, qui actuellement est prise dans d'autres choses, vienne parce que, donc, on a franchi une première étape d'audition et on va passer une deuxième étape. Qu'est-ce que c'est que j'ai constaté, moi, qui me choque à l'heure où je vous parle? C'est qu'il y avait un schéma directeur, notamment qui abordait les questions de sécurité, qui avait été construit par Monsieur Martinez, qui est l'ancien directeur, entre 2017 et 2022. Quand la nouvelle directrice est arrivée, Madame Descartes, en 2022, elle l'a remis à plat, elle n'a rien fait, et elle a dit on va en faire un nouveau. Et actuellement, on n'en a pas de schéma directeur qui comprend notamment les questions de sécurité.
Donc pendant 4 ans, il ne s'est rien passé.
Voilà. Et là, je ne comprends pas, et moi, j'attends pour lui poser la question, pour quelle raison elle a considéré que celui qui avait été conseillé par son prédécesseur n'avait pas rentré en application et que depuis 4 ans, on n'a pas vraiment le schéma directeur. Moi, je suis allé visiter, je vais vous dire, la salle, si vous avez l'occasion d'y aller, allez voir la salle de surveillance, donc du Louvre, du plus grand musée du monde. Et ben, j'ai dit ça pour choquer, mais c'est la vérité. Le centre commercial Auchan, Porte de Bagnoles, est à côté de chez moi. Je connais aussi la salle de sécurité. Les caméras sont de meilleure qualité que le Louvre. Le Louvre, la caméra qui est fixée sur le quai François Mitterrand, là où la voiture s'est arrêtée, elle est brouillée, neigeuse. On ne voit rien dans le plus grand musée du monde. Non, mais c'est un sujet. Donc là,
c'est la misère.
Bon, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'au bout d'un moment, là, il y a une responsabilité d'une direction. Et à mon avis, c'est le problème de. On revient un peu au sujet.
D'ailleurs, pourquoi la directrice est toujours en place? D'ailleurs, mais pourquoi la directrice est toujours en place?
Moi, je suis absolument horrifié par ce que vous venez de dire. C'est-à-dire, il y avait un plan de sécurité jusqu'en 2022. la nouvelle arrivante dit ce plan n'est plus valable, on le remet à plat, elle ne fait rien. Mais le temps qu'on met le nouveau plan, il n'y a plus de plan.
On est d'accord.
Il n'y a pas du tout de continuité.
Mais entre temps,
mais si on
revanche,
ça dans la santé, non, parce que
c'est ça que je veux comprendre. D'autant qu'il y a le rapport d'une instance qui s'occupe de la sécurité de la musique qui s'appelle l'IJAC, qui a été fait depuis et qui nous dit quand même la nouvelle directrice dit, parce qu'il y a des arguments, faut améliorer, il y a quand même des choses qui devaient être faites. Là-dessus, c'est là où ma commission. Mais ce que je veux dire, vous voyez, moi je travaille là-dessus, ça fait des mois. C'est pas au niveau de récupérer 3 millions de documents comme sur le dossier précédent. Mais c'est intéressant. Moi, je suis un parlementariste, Olivier Truchot. Je suis pour que les parlementaires puissent travailler. Et il y a un intérêt pour le citoyen sur ces commissions d'enquête parlementaires qui permettent d'aller au cœur de sujets. Là, notamment le Louvre. Gros budget, 350 millions d'euros d'argent public qui leur est confié. Il y a un projet de Louvre Renaissance qui est 700 millions qui vont être investis. Donc, il faut quand même que la représentation parlementaire et donc les citoyens mettent le nez sur la manière dont leur argent est utilisé.
Allez, question des grandes gueules. Charles Consigny. Oui, cher, un peu politique, les municipales.
Alors, j'ai découvert que vous n'étiez plus au groupe France Insoumise, mais que vous êtes maintenant chez les écolos. Bah oui, mais pour moi, vous êtes encore identifié, estampillé. France Insoumise. Mais non, mais vous voyez, malgré les purges internes à ce parti, qui sont le propre de tous les mouvements staliniens, eh bien, vous êtes encore dans l'imaginaire collectif un insoumis. Donc vous êtes chez les écolos. Il y a en ce moment les élections municipales, c'est très intéressant parce que les municipalités ont permis de découvrir l'ampleur du désastre quand les écolos sont au pouvoir. On l'a vu à Lyon, on l'a vu à Grenoble, on l'a vu à Bordeaux, on l'a vu à Paris. Là où l'écologie passe, les villes trépassent. ça a été systématique jusqu'à des cas très paroxystique comme à Lyon où on est vraiment au bord de la catastrophe absolue et Paris, je n'en parle même pas. Ma question est que répondez-vous à ça et comment expliquez-vous que chaque mandature des écolos à l'échelon municipal se soit soldée par une telle catastrophe ? Qu'ont apporté les écolos depuis 30 ou 40 ans en France, à part des interdictions, Charles, et des paysages défigurés avec les éoliennes?
Les écolos qui sont menacés dans ces villes, hein, selon les sondages. Hein,
et comptez-vous changer de groupe parlementaire de famille à la prochaine occasion de le faire? C'est une question en forme de recommandation.
Merci. Alors, petit 1. Je suis dans le groupe parlementaire, j'ai pas rejoint moi les écologistes qui accueillent différentes formations politiques. Il y a François Ruffin aussi qui est avec moi. Il y a
qui accueille les purgés.
Non, mais voilà, il y a le mouvement Génération, je sais pas si vous voyez ce que c'est, qui avait été fondé par donc ça n'est pas que
par
les
membres,
par Benoît Hamon. Benoît, ça n'est pas que les écologistes purges. Je dois avouer que dans ce groupe parlementaire, il y a une vie démocratique, sa présidente s'appelle Cérielle Chatelain, que je trouve agréable. Voilà. Bon. Petit 1. Petit 2, j'ai envie de dire, cher Charles, ne changez pas. Voilà, vous êtes quelque part finalement dans notre patrimoine médiatique, un peu à l'image de la Tour Eiffel, où on va vous mettre sous cloche. Vous êtes la pensée
historique
de droite qui ne prend pas une ride. C'est comme le jean, vous ne vous démodez pas, ça va avec tout.
Et oui, mais c'est vrai que les écologistes n'ont plus le vent en poupe. Alors, il y a eu quand même une vague écolo, faut le dire. Alors on était dans un contexte particulier, on sortait du Covid, le deuxième tour s'est fait plus tard, il y a eu une forte abstention, peut-être que les électeurs plus âgés n'ont pas voté, plus à droite, non, mais, bref.
Olivier,
et là on sent que c'est le ressac.
Alors,
à Lyon, c'est quand même très mal parti.
Alors, il y a Lyon.
Doucet,
oui, mais attendez.
C'est mal parti à Strasbourg, c'est mal parti dans plusieurs communes quand même, si je regarde les sondages.
Hein. Oui. Alors, bon, si quand même, ne perdez pas de vue que les écologistes, ils ont Grenoble, et je pense que Grenoble va rester
à gauche.
Écologiste. Non, mais même écologiste. Oui. Enfin, la candidate choisie par le.
C'est la sœur de François Ruffin.
D'Éric Piolle. Il s'avère que c'est la sœur, elle s'appelle Laurence Ruffin. Je pense qu'à Bordeaux, ça peut bien se passer pour Pierre Rumic. Je vais aller soutenir mon ami. On a le droit de parler des villes, là, parce que sinon, ça fait. Enfin, oui, à Lorient, oui, moi, oui, je pense que
la liste. On a le droit de parler des villes si vous ne nommez pas les villes, ni les candidats.
Donc, je fais simple et je nomme pas
les
villes.
Mais ça, c'est des règles que vous pouvez changer à l'Assemblée nationale.
Non, mais on va respecter les règles pour pas mettre dans l'embarras. Il y a quand même des villes où je pense que des listes d'union conduites par des écologistes peuvent l'emporter.
C'est quand même plus compliqué pour les écologistes en ce moment, même
il est
dans
vrai,
leur stratégie.
Je pense qu'à Lyon, il y a un problème. Il y a un problème.
À cause de leur bilan.
C'est le bilan. Je veux dire, mine de rien, après aussi la nature de la candidature Aulas. Hein. Attention, parce qu'on est quand même dans un candidat, ça peut vous amuser, mais qui est attrape-tout à un point, quand même, qui est problématique. Milieu d'affaires, parce qu'ancien président du club qui a un certain succès d'un milieu populaire, on ne sait pas très bien ce qu'il propose, etc. Et je veux dire, moi, ce genre de candidat, je vais les qualifier, sans manquer de respect, de monstrueux. C'est-à-dire qu'en fait, ils captent tout. Oui, parce qu'on ne sait pas très bien.
C'est une figure de lyonnaise.
Voilà, c'est une figure. Oui, mais bon. C'est facile de dire, quelles sont ses propositions pour le transport, pour l'emploi, pour la ville, y compris pour l'écologie. On peut rigoler, se moquer de l'écologie. Mais c'est un vrai sujet, la pollution qui touche en particulier les milieux populaires. Mais quelle réponse?
réponse il a. Il dit quasiment rien. Donc attention à ce genre de personnage comme ça. D'accord. Qui, je veux dire, c'est du Bernard Tapie à la sauce lyonnaise, mais pas. Il y avait des aspects sympas chez Bernard Tapie. Donc je suis pas sûr que ce soit. Ça annonce l'avenir. Après. Pour donner ma carte d'identité politique aujourd'hui, je suis un unioniste. Et j'espère qu'on pourra en parler avant que je parte. Oui, un unioniste de la gauche et des écologistes. Un unioniste, je suis pour que ce qu'on avait fait en 2024, qui vous avez sans doute horrifié, cher Charles Consigny, le nouveau Front Populaire, puisse produire une candidature.
La désignation de Castex.
Puisse produire. Ah, ça, c'est vrai. Ouais. Et je vous en remercie. Puisse produire une candidature commune à la prochaine élection présidentielle.
Donc, comment on fait? Parce que, sincèrement, la primaire à gauche, elle est mal barrée. Excusez-moi. Puisque la plupart des leaders de la gauche ne veulent pas y participer. Je pense à Jean-Luc Mélenchon, Raphaël Glucksmann, François Hollande, Jérôme Guedj, qui était à votre place il y a quelques jours, et candidat.
Alors, j'ai de l'affection
par la
pour Jérôme Guedj, mais est-ce que c'est un principal leader de la gauche? Vous voyez ce que je veux dire?
De son parti.
Il vous fait pas penser à Léon Blum ou à Jean Jaurès? Non? Il a pas un petit côté François Mitterrand à la limite.
Attendez, ne vous moquez pas de Jérôme Guedj, il est pas là.
Non mais Jérôme fait ce qu'il veut.
Non mais pardon, mais la primaire, ça sent le roussi.
Non mais. Ben je sais pas, parce que on va dire les choses clairement. Effectivement, Raphaël Glucksmann et Jean-Luc Mélenchon ont en réalité la même stratégie. Hein, c'est le yin et le yang du même truc. C'est nous sommes des puissances. Allez vous faire voir. Ben l'union, on s'en fout. Le présidentialisme est tel que je suis candidat et vous vous rallierez à moi. Moi, je pense que ça n'est pas comprendre le moment dans lequel on est. L'extrême droite aujourd'hui est extrêmement puissante. 35%,
peut-être même 40%. Deuxième tour, quoi.
Deuxièmement, le comportement des électeurs de droite au second tour est en train de se modifier. Et ils voteront pour l'extrême droite. Si en particulier c'est face à des candidats de gauche particulièrement repoussoirs. Donc nous à gauche, on doit penser deux choses. Être fort au premier tour pour s'assurer d'être au second. Deuxièmement, avoir un profil et une stratégie qui n'est pas repoussoir et qui ne projette pas.
Mais comment vous forcez des gens à participer à la primaire qui ne veulent pas?
Eh bien, le résultat des élections municipales aura son importance. Et j'espère que vous m'inviterez, moi ou des amis, pour en tirer les leçons. Que va-t-il se passer dans ces municipales? Là où la gauche résistera, où elle gagnera, ce sera la gauche unitaire. La gauche identitaire, comme ce que cherchent à faire mes amis insoumis, c'est-à-dire se planter partout, à mon avis, ne remportera quasiment aucune ville, voire même le score de Jean-Luc Mélenchon de la présidentielle.
On peut être faible au municipal et gagner la présidentielle. Vous savez très bien, vous connaissez comme moi l'histoire politique. Je rappellerai quand Jospin est éliminé au soir du premier tour d'une élection présidentielle. Les socialistes juste avant venaient gagner les municipales.
C'est intéressant parce que j'ai fait une tribune, je raconte ça. Ça n'est pas vrai. Bah justement, il y a une mauvaise compréhension des élections municipales de 2001. Bah où en vérité, le Parti socialiste a perdu énormément de villes, mais comme ils ont gagné Paris, en raison de la période de la crise, du chiracisme et tout, c'est trompe-l'œil. Et il y a une incompréhension de ce qui a lieu. D'accord. Donc la lecture des municipales, bien sûr, elles ont leur autonomie, a une importance. Moi, ce que je dis, c'est si partout là où on résiste, s'il y a le triomphe des barons socialistes qui pensent que parce qu'ils conduisent une liste d'union, c'est le retour du PS, ils se trompent. Si on gagne des villes, c'est parce que c'est l'union. Et deuxièmement, là où Jean-Luc Mélenchon a fait souvent 40-45%, ces listes vont faire 15%. Donc il doit comprendre que c'est que dans l'union qu'on arrivera à s'en sortir.
C'est quasiment terminé, parce qu'on a un temps de parole.
Rapidement, je m'attendais à un scoop. Est-ce que
juste comment il va?
Non. Moi, j'ai envie de savoir.
Vas-y, Sandrine.
Moi, je parle un petit scoop. Vous êtes au GG. Vous voulez pas vous déclarer en tant que candidat? Je sais pas. C'est un peu à la mode là, avec Monsieur Retailleau qui se présente. Pourquoi pas vous?
Précisément, je pense.
C'est l'inflation des candidatures là.
Il y a un piège de notre vie politique, c'est le présidentialisme, que ça met la vie politique dans une situation d'ébriété médiatique où d'un seul coup, pour exister, faut être candidat à l'élection présidentielle. Ce que je propose, c'est une stratégie. J'invite chacun à l'entendre. Je profite du micro pour dire. Jean-Luc Mélenchon, il veut plus m'adresser la parole, mais si tu m'entends, fais ton devoir, aide la gauche et les écologistes à ne pas créer les conditions de victoire de l'extrême droite et à gagner. Donc tu dois aider à l'union, pareil pour Glucksmann. Et honnêtement, venir là-dedans avec un melon énorme pour dire la solution.
Vous voulez dire des gens qui pensent des choses très différentes.
Mais il faut se battre. Si on n'est pas unis, c'est la défaite. Alors peut-être que le scénario que vous présentez comme fataliste aura lieu. La grande division, parce que, attendez, s'il y a Mélenchon et Glucksmann, évidemment, Roussel va y aller, les écolos vont y aller, etc. Et ce sera l'émiettement. Bon, et nous,
dernière question, parce
moi,
que
je
c'est
ne veux
terminé.
Pas que ce pays soit dirigé par l'extrême droite.
Dernier mot. Retailleau, candidat à droite.
Alors. J'ai pas le temps de développer,
Méfiez-vous
de la droite, parce que j'entends ce que dit Wauquiez, qu'il faut peut-être une primaire de la droite. Ne prenons pas la droite pour des imbéciles. Il y aura aussi du vote utile et il y aura pas l'émiettement. Ceci dit, le conseil que je donne comme homme de gauche, c'est que Retailleau, qui parle comme l'extrême droite en croyant qu'il va faire du Sarkozy en ramenant l'électorat à l'extrême droite, il n'a pas compris qu'on a changé de période et en vérité, il sera totalement aspiré par Bardella. On ne combat pas l'extrême droite en parlant comme elle, tel que le fait Retailleau. Donc il y va, il est un peu obligé quand t'es chef de parti. Mais honnêtement, je crois pas que ce soit. Vous voulez que je termine en... Moi, je pense de la droite.
Oui.
Le cornu. Regardez avec son profil, le modeste, ah, le petit le cornu, plus sous la veste. Vous allez voir que la droite a besoin d'un champion et peut-être que le cornu
sera champion
le cornu
droite,
jeune voilà, un peu adversaire et qui va faire l'unanimité. Non, mais la droite a changé de nature et parler comme Bardella pour combattre Bardella, c'est perdu d'avance.
Eh ben donc il mise une pièce sur le cornu, on verra. Merci Alexis
Corbière.
Alexis Corbière, merci d'être venu dans les grandes gueules. Restez avec nous dans un instant. Là, la roue RMC va tourner. Il y a de l'argent à gagner.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
La suite des grandes gueules sur RMC, RMC Story. Aujourd'hui, vendredi 13, c'est jour de chance sur RMC, RMC Story. Avec Sylvain qui est avec nous. Bonjour Sylvain.
Bonjour, bonjour.
Bravo, vous avez été tiré au sort. Vous remportez d'ores et déjà 1000 euros.
Wow.
Et devant moi, il y a la roue RMC et Anaïs Sens qui, peut-être, va vous permettre de multiplier cette somme de 1000 euros. Alors, je décris la roue pour ceux qui nous écoutent sur RMC. Il y a plusieurs cases avec un multiple de 2, de 3, 5 et ça va jusqu'à 13. Donc, on peut gagner jusqu'à 13 000 euros. Et il y a aussi une case mystère. La case mystère renvoie un ballon. Un ballon en forme de cœur. Pourquoi? Parce que demain c'est la Saint-Valentin. Ah non, mais à RMC on est suivi dans les images.
Oui.
À l'intérieur de ce ballon, il y a vous avez vu un petit ticket, un petit bout de papier. Et sur ce petit bout de papier, il y a la somme que pourrait gagner notre ami Sylvain s'il décroche la case mystère. Mais on n'en est pas là. On va déjà faire tourner la roue. Vas-y Anaïs.
Et parce que c'est Anaïs la main innocente.
Oh là 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 là.
Attention Sylvain.
C'est dangereux ce truc.
Mais oui, Philippe Trichot.
Mais quelle force.
Est-ce qu'il y a eu 3 tours? Oui, 2. Vous gagnez 2000 euros, Sylvain.
Hey.
1000 fois 2, ça fait 2000.
Bravo.
Hein. Tu confirmes, Jérôme? Bravo à vous, Sylvain.
Ouais. Merci beaucoup.
Pas le plus mateux de la
Sylvain de Frontignan, crois, ouais, dans l'Hérault, 2000 euros, bah c'est une bonne journée. C'est un vendredi 13 réussi pour vous.
Exactement.
Bon, merci d'avoir joué. Alors vous savez que c'est pas fini, on joue toute la journée puisque SL Midi fera également tourner la roue. Pour cela, vous vous inscrivez dès maintenant en envoyant le mot 13 au 732-16, 13 ou le chiffre 13 au 732-16. Et vous avez 10 minutes pour jouer, pour vous inscrire. Et rendez-vous chez SL Midi pour faire tourner à nouveau cette roue. Il y a jusqu'à 30 000 euros d'argent à gagner aujourd'hui sur RMC, vendredi 13. On va sans enchaînement continue à débattre de l'actualité, sans notamment pouls, de cette pétition qui s'en prend au rapporteur de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. C'est une tribune qui a été publiée dans Le Monde pour dire que monsieur Alloncle, le député qui est rapporteur de cette commission d'enquête sur l'audiovisuel public, en fait trop. C'est un procureur. Cette tribune est signée par 350 personnalités, des comédiens, des gens d'ailleurs qui travaillent beaucoup pour le service public et qui disent trop c'est trop. Il faut sauver l'audiovisuel public. Il faut défendre la télé publique. Et monsieur Alloncle n'a pas à jouer les procureurs. Alors est-ce que ils ont raison? Ça va trop loin. Cette remise en cause de l'audiovisuel public, dont le budget est de 4 milliards d'euros chaque année. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous auriez pu signer cette tribune ou au contraire, non? Et vous défendez plutôt la commission. Charles?
La gauche caviar se rue dans les brancards. La gauche caviar se défend. Manifestement, elle a du mal à expliquer ce qu'elle fait avec l'argent public en toute discrétion. Moi, je trouve que le jeune Alloncle a du mérite. Si j'étais lui, d'ailleurs, j'irais encore plus loin dans mes investigations. C'est là qu'on voit qu'il n'est guère juriste. Je pense que les mêmes personnes face à des juges seraient autrement mis en difficulté. Je trouve d'ailleurs assez scandaleux, notamment qu'il refuse de répondre à la question toute bête de leur rémunération. Je pense en particulier à Madame Lucet.
Et les Ucet.
Excusez-moi, il y a la roue qui
oui, on est en train d'aménager en même temps.
et qui rentrent dans le cadre de la caméra. Vous voyez, nous, on n'a pas
les conditions du direct.
On n'a pas les moyens forcément de viser le public.
Non, c'est sûr, ça coûte moins cher que les caches investigations.
Élise Lucet, qui poursuit tout le monde avec son micro pour savoir si vous êtes brossé les dents ce matin et qui est prêt à vous mettre sur une guillotine si vous refusez de répondre, je trouve assez démentiel qu'elle refuse de donner le montant de sa rémunération à la représentation nationale.
Alors, parmi les noms, hein, j'en cite quelques-uns, il y a Laure Adler, Jean Benguigui, le comédien, Bruno Solo, Daniel Evenou, Michel Fil, Michel Azanavicius, Louis Rego, Jean-Michel Ribes, Laurent Geoffroy, il y a aussi des journalistes, François Berléand, Michel Cotta, Costa Gavra, Roland Carol, politologue, bon, il y a un peu de tout.
C'est la gauche caviar qui se réveille. C'est tout. Pour moi, c'est d'ailleurs, si
c'est des gens qui, pour la plupart, travaillent avec le service public. Hein.
Charles Alloncle peut prendre cette pétition pour une légion d'honneur. Pour moi, c'est une légion d'honneur. Il devrait l'imprimer.
Donc, lui dit, il faut qu'on
l'agrafe sur sa veste.
Sandrine Pégan.
Moi aussi, je dis qu'il faut, continuer. Je ne la signerai pas, cette pétition, si j'avais été à leur place. Parce qu'une commission d'enquête parlementaire, c'est pas un salon de thé. Oui, il pose des questions parfois gênantes, parfois fermes, mais je vois pas pourquoi on le catalogue et on l'estampille de procureur.
Bah, il a quand même un biais, c'est-à-dire que on sent bien qu'il trouve que ça coûte trop cher,
oui,
que les journalistes
voient bien son idéologie, bien sûr,
que l'audiovisuel est trop à gauche, etc.
Il veut plus service public, voilà. Etc. Oui, mais bon, en attendant, je veux dire, c'est son rôle. Moi, je trouve que il le fait très bien, qu'il continue.
Jérôme Marty, moins convaincu.
Je suis moins convaincu parce que le spectacle qui est donné par cette commission est parfois un peu gênant quand même, notamment les rapports qu'il peut y avoir entre le président et, oui, et le rapporteur, où à chaque fois ils s'engueulent devant tout le monde. Ça part un petit peu dans tous les sens. Et c'est un peu même pathétique des fois, quoi. Donc c'est quand même ils sont censés représenter une commission de la représentation nationale. Et l'image qu'ils donnent n'est pas quand même flamboyante, quoi, on va dire. Bon, c'est pas hyper sérieux. Alors après, c'est vrai aussi que on n'est pas dans le conflit d'intérêts, mais on est quand même dans une orientation politique qui ne fait pas mystère de sa volonté d'éradiquer le service public. Non, bien sûr qu'on en est loin. Non, mais je dis pas qu'ils ont raison ou tort. Mais je dis que par rapport à des gens qui veulent défendre le service public, on peut comprendre que ils voient cette commission comme plus qu'agressive, quoi. Après, il y a des choses qui me gênent, effectivement, comme le refus de donner son salaire dans la mesure où c'est des deniers publics.
Exactement.
Et c'est gênant. Parce que tu te dois à la transparence quand tu es payé avec les deniers publics. On a l'impression qu'il y a certaines parties qui sont cachées et c'est gênant. Mais d'autre part, moi, je fais partie des gens qui disent qu'il faut un service public audiovisuel et que c'est important.
Aussi large,
qu'on ait
aussi large. Parce qu'il y a quand même
aussi
aujourd'hui,
large, je sais rien, mais ça,
il y a aujourd'hui 14 chaînes de télé, de radio publique,
ouais, non, mais
dans
ça,
un pays très endetté.
Ça, on est d'accord.
On nous explique qu'il va falloir faire des économies. Je pense que le prochain président ou la prochaine présidente, enfin la prochaine, il n'y a jamais eu de présidente, mais enfin, celui qui prendra les clés de l'Élysée, il sera obligé de faire une cure d'austérité. On n'aura pas le choix parce que sinon, c'est le FMI qui prendra la main. Et donc, j'imagine que on va falloir arbitrer entre un hôpital ou mieux payer les infirmières finalement à avoir autant de chaînes. Il va falloir
changer. Faut se méfier avec ce raisonnement parce que ça veut dire aussi entre l'hôpital et les musées, ça veut dire aussi entre l'hôpital et la culture.
Mais oui, mais parce qu'on dépense trop.
Faut se méfier de ces raisons.
Quand tu dépenses trop d'argent dans une famille, tu fais des choix aussi.
Non, mais Olivier, là où je te rejoins, c'est 14 chaînes. Ceci étant, sur les 14 chaînes, il y en a, à mon avis, au moins 7 ou 8 qui ne doivent pas quand même coûter énormément.
Non, mais tu vois bien. Enfin, il faut quand même dire les choses comme elles sont. Cette commission met un coup de pied dans la fourmilière et gêne beaucoup de gens aux entours. Parce qu'ils étaient habitués à une forme d'impunité, parce qu'ils sont sur leur magistère moral encore une fois, cette gauche caviar qui fait la leçon à tout le monde et qui s'estime toujours exempte de tout soupçon. Souvenez-vous quand même que Mme Lucet, interrogée sur l'opportunité d'un cache investigation sur France Télévisions, avait répondu non pas à ce qui était la réponse normale, écoutez, vous êtes gentil, mais je suis diffusé sur France Télévisions, donc c'est aux autres médias de le faire. Elle avait dit non, je ne le ferai pas parce qu'il n'y a rien à trouver. Hein, donc ça, c'est, non, mais c'est dans le stalinisme intellectuel, on est quand même assez haut. Donc moi, je suis désolé quand j'entends aussi une employée de France Télé qui est obligée d'avouer en bafouillant qu'elle passe ses vacances auprès du patron d'une des grandes sociétés de production à laquelle France Télévisions commande des émissions. Pardon, c'est quand même un tout petit peu gênant. Encore une fois, venant de gens dont quand même le métier est de faire la leçon à tout le monde. Donc moi je pense qu'il faut aller plus loin dans cette
mais il faut aller plus loin quoi en disant quoi finalement ça va aboutir à
par
quoi,
exemple en fait le jeune Alloncle a la possibilité de perquisitionner moi si j'étais lui je perquisitionnerais France Télévisions ben, bien sûr j'irais voir ce qu'il en est vraiment et surtout ce qu'il faut faire ensuite c'est tirer les conséquences de ça c'est-à-dire que moi je pense qu'il y a des rémunérations à France Télé qui sont beaucoup trop élevées et qui doivent être plafonnées c'est le service public on trouvera toujours des gens pour y travailler sans les payer des fortunes. S'ils veulent gagner des fortunes, ils ont qu'à aller dans le privé. Il y a un moment donné, on peut pas à la fois faire le choix du service public et se
peut-être prendre, qu'il serait mieux payé dans le privé.
Et
quand
se
même
prendre pour Jean Moulin. Oui, ça, oh, il y en a qui sont tellement bien payés qu'à mon avis, même dans le privé, ils auraient du mal.
Ouais,
parce que
y en a qui sont
il faut
bien,
choisir.
Hein,
soit on se la joue service public,
ouais.
et on se présente comme étant une espèce de Jean Moulin de l'information. Et dans ces cas-là, on prend aussi ses pertes avec ça. C'est-à-dire, on travaille
comme
pour l'État.
Comme un fonctionnaire qui est moins payé, peut-être.
Comme un fonctionnaire, comme quelqu'un qui est médecin à l'hôpital public au lieu d'être médecin à l'hôpital américain. Je dirais, soit on est médecin à l'hôpital américain. Ok, mais dans ces cas-là, on n'est pas Sœur Emmanuel. On ne peut pas avoir à la fois... C'est ça que je trouve qu'il y a une tartufferie chez beaucoup.
Dans le service public, il y a quand même il y a des grilles salariales, c'est assez plafonné.
Il y en a certains qui y échappent.
C'est plafonné, donc...
Oui, on verra le détail des rémunérations.
Bah, on ne verra pas, parce que...
Si, parce que la commission a, par écrit... Ah oui. Une subtilité réglementaire.
Non, mais là,
on apprend
qu'il y a des voitures de fonction.
Et si le rapport est voté, il y a plus de 50 voitures de fonction.
Il y a des choses quand même qui sont assez étonnantes.
50 voitures de fonction, mais les
53 cadres de France TV disposent d'une voiture de fonction qui, en plus, visiblement, peuvent utiliser le week-end et pendant les vacances. D'ailleurs, on n'a pas le droit à ça dans le privé. C'est un abus bien social.
Vous voyez bien, c'est une nomenclature.
Mais ça existe. Non, mais tu peux peut-être refixer des règles.
Mais ça existe dans plein d'autres domaines, Jérôme. Moi, j'ai eu le cas, par exemple. Ça existe dans plein d'autres domaines. Du public. C'est pour ça que moi je pense que
remettre un peu de déontologie.
Commission, il faut les généraliser. J'ai eu le cas récemment où je représentais comme avocat un chef de service à l'hôpital qui était en conflit avec la directrice de l'hôpital qui était par ailleurs une représentante syndicale. Qu'est-ce qu'on découvre ? Qu'elle a un logement de fonction rutilant, hors de prix, sur le dos de l'hôpital. Qu'elle a un véhicule de fonction rutilant, hors de prix, sur le dos de l'hôpital. L'hôpital public et avec elle, son adjoint, son deuxième adjoint, etc. C'est, voilà,
hôpital public qui empêche les externes d'aller manger au self avec les autres professions de santé.
Et puis ce sont
les bureaux, effectivement, au dernier étage, qui sont ceux de l'administration, sont toujours les plus moquettés, les plus enveloppés, etc.
Ce sont des gens de gauche.
Allez, dans
un instant, la leçon à mon client chef de service.
Allez, dans un instant, on va s'interroger. Est-ce que le Ouigo, ça va pas être finalement le train pour les riches, alors que c'était l'inverse. Au départ, le Ouigo, c'était l'offre low cost de la SNCF, sauf que les prix des TGV Ouigo ont augmenté de 75% en 7 ans. Il se passe un truc là. À tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les grandes gueules autour de la table aujourd'hui sur RMC la radio, Charles Consigny et la télé RMC Story. Vous le voyez, Charles, il adore ce générique, il danse un peu à la Trump.
La Trump, oui.
Ouais. Jérôme Marty est avec nous, notre médecin, et l'avocate Sandrine Pégan. Toi qui aimes bien danser, tu
me demandes à quelle heure je vais commencer à soigner Charles Consigny.
Et attendez, il reste 6 minutes avant de laisser la main à SL midi. Je voudrais quand même qu'on s'intéresse un instant sur un petit scandale. Enfin, en tout cas, moi, je trouve que c'est un petit scandale. Vous vous souvenez, les TGV Ouigo nous avaient présenté ça comme une offre low cost de la SNCF. Les TGV, c'est vrai que ça coûte cher. Et Ouigo, ça permet de voyager moins cher, mais voyager rapide. Mais en fait, petit à petit, la SNCF ne cesse d'augmenter le prix des TGV Ouigo. Ça a augmenté quand même de 75% en 7 ans. Ce qui fait que ça va devenir quasiment aussi cher de prendre un Ouigo qu'un TGV Inouï. Quoique les TGV Inouï également progressent. Est-ce qu'on se fait avoir par la SNCF? On en parle avec vous au 32-16. Ce sont des chiffres dévoilés par la Fédération nationale des associations d'usagers des transports qui montrent, et c'est Ouest France notamment qui a publié ces chiffres, entre 2017 et 2024, le prix moyen d'un billet de train Ouigo est passé de 19,80 € à 34,70 €. Alors c'est vrai que c'était pas l'offre au départ, ça devait rester une offre peu chère, abordable pour tous, une offre low cost. Est-ce qu'on se fait avoir, Charles ?
Très clairement, c'est quelque chose que d'ailleurs j'ai déjà constaté. J'évite de prendre le Ouigo, je le dis en toute franchise, parce que j'adore le confort du train classique, même en seconde. Si on est à deux en seconde, je trouve que c'est très bien. À deux en seconde, assis à côté d'un inconnu, c'est bien de façon variable.
Dans la rame sont les enfants.
C'est parfois pas terrible. Seul dans un club 4 complet en seconde, c'est pas terrible aussi. Mais cela dit, c'est pas mieux en première. Mais en revanche, le Ouigo, j'ai pas des expériences fabuleuses. Mais ce que je vois, c'est que ça m'est quand même arrivé de le prendre. Et je constate maintenant, quand je book, quand je réserve un train, que les Ouigo sont pas forcément moins chers que le TGV classique.
Parfois même, ça peut être plus cher, ce qui est quand même un comble. C'est ce que dit le président de la Fédération des usagers. Il dit que le Ouigo est en train de rattraper l'Inouï, qui est l'offre TGV, parce que l'Inouï, ça a augmenté de 8% en moyenne sur cette période de 7 ans, alors que c'est 75% de l'augmentation pour les Ouigo.
Faudra pas s'étonner si les gens prennent Trenitalia.
Ben oui.
Et si la popularité de la SNCF baisse dans la population, et si les grèves à répétition de gens qui ont des statuts très protecteurs exaspèrent les Français, et si la privatisation de cette compagnie à laquelle nous sommes pourtant attachés est une idée qui fait son chemin. Je pense que ça plus ça plus ça, au bout d'un moment, pour les Français, la coupe est pleine.
Ouais.
Le train en France est trop cher par rapport aux subventions qu'on lui donne. Et moi, je pense qu'il y a un problème de management à la SNCF où quelques coups de tronçonneuse seraient assez bienvenus.
Alors, le président de la SNCF, c'est Jean Castex, l'ancien Premier ministre. La direction de la SNCF se justifie ses prix par le fait que désormais, les Ouigo desservent aussi des gares en centre-ville. Avant, les Ouigo partaient, vous savez, dans des gares un peu à l'extérieur des grandes villes, des gares TGV. Bon, est-ce que c'est suffisant comme explication ?
On ne peut pas payer une taxe quand ils rentrent en ville.
Visiblement, ça coûte plus cher quand c'est en centre-ville.
Non, mais le Ouigo...
C'est curieux. Non, mais la question que je me pose, c'est est-ce que le Ouigo tombe autant en panne ou est aussi victime de grève que le train normal ?
Oui, c'est pareil.
Non, mais c'est du
moi, je prends très peu le train, mais ma sœur le prend beaucoup chaque fois qu'elle fait Paris, Paris-Toulouse et Toulouse-Paris. Alors, je sais pas si c'est le chat noir, mais elle, systématiquement, elle prend des retards. La dernière fois, par exemple, c'est la motrice qui était en panne. Donc, on leur a dit, ah non, désolé, la motrice est en panne, elle a perdu 2 heures quand même. Une autre fois, c'est des vaches écrasées. Une autre fois, c'est un cerf écrasé. Enfin, c'est où est le chat noir, où il y a quand même des soucis sur la ligne.
Le Ouigo, excuse-moi, mais là, sans déconner, c'est du grand foutage de gueule. Entre les rames qui sont inconfortables, t'as pas de prise électrique, t'as pas de poubelle, t'as pas de resto, t'as pas de bar. Et en plus, là, ça vient encore à être augmenté. À un moment donné, la France va devoir se réveiller parce que là, avec toute la concurrence avec les lignes italiennes, c'est plus possible. Mais c'est du grand foutage de gueule.
D'autant plus qu'avec le Ouigo, les cartes de fidélité ne fonctionnent pas. C'est pour ça que si t'es malin, tu te retrouves à payer moins cher un TGV classique qu'un Ouigo grâce à ta carte de fidélité. Et à contrario, c'est ce que dit le président, il dit en fait le client se fait avoir. Parce que quand il prend un Ouigo, il pense que c'est moins cher.
Eh oui.
Il va pas forcément, quand tu prends tu vas pas comparer tous les prix.
Donc
tu dis, bon,
comme
je suis sûr d'avoir le meilleur prix. Donc il y a peut-être même tromperie sur la marchandise.
Et moi, je rêve.
On pourrait faire une action collective, tiens, d'ailleurs, on va se renseigner, Charles.
Je rêve de train avec des places solo exclusivement.
Voilà.
Parce qu'en réalité, les gens,
le concili de 17h45.
Un train pour toi tout seul.
Mais regardez les trains, les gens voyagent seuls maintenant. On est quand même à l'époque à laquelle les gens sont seuls.
Mais ça existe, tu sais, avec 4 roues, un volant, c'est le moins cher.
Les gens prennent leur repas seuls.
Ça coûte trop cher. L'assurance, etc., à tous les sens.
Attendez, parce que j'ai un contrôleur SNCF qui vient d'arriver au 3216. On est très écouté par les cheminots.
Inconnu dans le train.
Vincent de Paris qui nous appelle. Bonjour, Vincent.
Bonjour, vous allez bien ?
Oui, très bien. Comment ça se fait que ça augmente plus vite pour les Ouigo que pour les TGV classiques ?
Bah parce que ils payent maintenant plus cher les péages, donc du coup ça fait comme Trenitalia, bientôt ça va être plus cher.
Oui, d'accord. Et c'est uniquement voilà. Ça explique 75% de l'augmentation.
Je sais pas si ça explique 75% d'augmentation. Toujours est-il que comme c'est des sociétés privées, maintenant elles veulent faire du fric, hein, donc une fois qu'elles ont plus la rentabilité de payer moins cher les péages, automatiquement
Voilà. Oui, mais rendez-vous compte qu'on a quand même dit aux clients, prenez Ouigo, ça sera forcément moins cher. Il se trouve parfois à payer plus cher son Ouigo qu'un TGV classique. Il se fait un peu avoir quand même.
Ouais, ils se font avoir, oui et non. Ils ont voulu la concurrence, ils l'ont maintenant. Hein. J'ai envie de dire.
Ah bah non, oui, là, c'est la concurrence au sein même de la SNCF, pardon.
Bah oui.
Bah non, c'est deux sociétés différentes. Ça a été monté en deux sociétés différentes. Oui. Alors effectivement,
oui, après, c'est les montages internes.
Les employés sont les mêmes. Les employés sont les mêmes. Se font exploiter autant. Donc
pour le client, c'est la même chose.
Bah parce qu'il a pas regardé plus loin que ça. Mais
qu'est-ce que vous pensez de ceux qui disent ça va pousser tous les usagers ou les clients à aller vers la concurrence étrangère, Trenitalia notamment?
Bah, ils vont certainement aller chez Trenitalia dans un début, et puis quand les prix seront au même niveau que ce qu'on fait à TGV Inouï, ils reviendront sur TGV Inouï, parce qu'il y a plus de relations, il y a plus de trains, donc voilà, ils reviendront petit à petit. Après, la concurrence fait peur, et en même temps, est-ce qu'elle doit vraiment faire peur? Non.
C'est toujours la concurrence, ça pousse tout le monde parfois à se remettre en question aussi.
À s'améliorer.
Je sais pas si elle est bonne. Sur le ferroviaire, elle est pas bonne.
Non, mais la question, c'est est-ce qu'il y a beaucoup de secteurs en France qui augmentent de 75% en 7 ans?
Bon, on va voir.
Je pense que si on prend EDF et la concurrence à l'arrivée, les 75%, on les a eu largement.
Merci Vincent qui dit que c'est peut-être à cause de la concurrence que les prix augmentent. A priori, la concurrence devrait faire baisser les prix.
Oui,
bon, on va s'arrêter là parce que il est 11h53 et on va accueillir Estelle Midi qui va vous accompagner du débat encore de l'actualité pendant 2 heures. Salut Estelle.
Salut Olivier, salut les GG. Nous, on va parler du coup de blues des étudiants Bac plus 5. Ah. Est-ce qu'il faut encore pousser nos enfants à faire de longues études?
Non.
C'est la question qu'on vous posera dans un instant. Bah, venez témoigner, dites-nous si vous avez un gamin qui a un Bac plus 5.
Si tout le monde a un master, je vois pas l'intérêt en fait.
Bah, oui, surtout un master en...
Il faut bien qu'il y ait une sélection à un moment donné.
Exactement. Nous allons également parler du retour aux 90 km/h partout. Est-ce que ce serait une bonne ou une mauvaise idée? Il y a de plus en plus de départements qui reviennent. On se demande bien pourquoi. D'ailleurs, on ne sait plus pourquoi on est revenu au 80, pourquoi on est passé au 80.
Ah, ça, il faut demander à Édouard Philippe, hein. C'était lui, c'est son œuvre.
Est-ce qu'il le sait?
Moi, je suis pour la suppression des limitations de vitesse.
Comme en Allemagne. Soyons comme en Allemagne.
En Allemagne, il y en a quand même.
Oui, mais pas sur autoroute.
Non.
13h30, ça c'est une idée d'une candidate LFI à la mairie de Lyon. Supprimer le zoo de la Tête d'Or à Lyon. Mais est-ce qu'il faudrait supprimer les zoos au nom du bien-être animal? Bah oui, un zoo. Lion, par exemple, dans un zoo.
Vous lui avez posé la question?
Non. Ah bon. Non, je ne m'approche pas d'ailleurs.
D'accord.
Et est-ce qu'il n'est pas plus heureux dans la savane?
Et qui le dit ça? C'est une spécialiste des animaux, lions. Madame?
Écoute, c'est comme toi. Est-ce que tu n'es pas plus heureux dans un appart de 200 mètres carrés que dans un appart de 20?
Je sais pas, je connais pas les apparts de vin.
Pas mal, voilà, raison. Donc, voilà, et puis, évidemment, c'est la Saint-Valentin.
Ah, mais oui.
C'est bien sujet. Milieu social, éducation, mode de vie, faut-il se ressembler pour être heureux en couple?
C'est une bonne question. Est-ce qu'il faut ressembler à son conjoint pour être bien?
Oui, est-ce qu'il faut être du même milieu social? Est-ce qu'il faut faire le même métier? Est-ce qu'il faut voter pareil? Est-ce qu'il faut avoir la même éducation? Eh ben, c'est la question qu'on vous posera à 14h. Dites-nous si vous êtes exactement comme votre conjoint.
Et le tu préfères?
Allez, Estelle Midi, c'est maintenant au 32-16.
Et le tu préfères?
RMC, midi 15h. Estelle Midi.